Radio Kapi.
Le journal. Noël Alouzi Toukabambi à la présentation.
La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a présidé ce lundi à Kinshasa le lancement de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise au patriotisme et à la lutte contre la corruption, une campagne initiée par l'Inspection générale des finances, IGF, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté. Elle concerne plus de 2000 jeunes de la capitale. Des dizaines de personnes ont été emmenées par le 123 la nuit dernière. Selon plusieurs sources locales, elle se trouvait à l'hôpital Sebeka Ndosho de Goma. Avant cet hôpital, la même opération a été menée à l'hôpital Il Africa. Le 123 veut ainsi traquer des présumés militaires congolais, Wazalendo et FDLR. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, est l'invité de ce journal. Il va s'exprimer après sa rencontre à Beni avec le gouverneur du Nord Kivu. Bonsoir à tous. Lancement ce lundi 3 mars au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise au patriotisme et à la lutte contre la corruption. Cérémonie présidée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka au nom du président de la République. C'est une vaste campagne organisée par l'Inspection générale des finances, IGF, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté. Elle devrait connaître également la participation de plusieurs autres ministères. C'est plus de 2000 jeunes représentant la jeunesse congolaise qui y sont conviés. Restons à Kinshasa. La présidence de la République, la primature et le Parlement ont tous trois coûté à l'État congolais au premier semestre 2024 451 millions de dollars américains. À lui seul, le budget de la présidence a explosé les prévisions atteignant 99% de son enveloppe annuelle en 6 mois seulement. C'est ce que dénonce la coalition Le Congo n'est pas à vendre dans un rapport parvenu ce lundi à Radio Okapi. Michel Kifindangoy.
Alors que le président de la République venait d'annoncer le 29 janvier dernier une série de mesures visant à réduire les trains de vie des institutions en guise d'efforts de guerre, le Congo n'est pas à vendre, estime que ces mesures semblent irréalisables. Dans son rapport, cette coalition réunissant ces associations congolaises et non congolaises engagées dans la lutte contre la corruption examine les inégalités sociales du personnel de l'État comparées aux institutions politiques. En guise d'exemple, elle dénonce le fait que les militaires, les policiers et les enseignants touchent moins de 100 dollars par mois alors que les députés nationaux touchent des émoluments et autres avantages exorbitants estimés à plusieurs milliers de dollars. Ce rapport présente aussi les écarts entre les fonds alloués aux fonctionnement et intervention des institutions politiques par rapport aux investissements de l'État dans le secteur de la vie nationale. À titre illustratif, le Congo n'est pas à vendre révèle que les dépenses de fonctionnement ont été exécutées à 121% au premier trimestre 2024, alors que le financement des réformes et le fonctionnement des services déconcentrés n'ont pas connu de décaissement. Les dépenses en investissement sur ressources propres ont été exécutées à seulement 29%.
Finance encore, le gouvernement rassure de la continuité de la paix en dépit du contexte sécuritaire préoccupant. Le ministre congolais des Finances, Doudou Fouamba, réaffirme la détermination du gouvernement congolais à honorer ses obligations envers ceux qui, au péril de leur vie, défendent l'intégrité territoriale. Dans une dépêche parvenue ce matin à Radio Okapi, le ministre congolais des Finances affirme avoir débuté le paiement du salaire du mois de février depuis le 19 dernier. L'opération devra se poursuivre jusqu'au 5 mars courant. Pour lui, malgré ce contexte d'agression de la RDC par le Rwanda, la stabilité interne et le bon fonctionnement de l'État demeurent une priorité pour le gouvernement congolais. Au Nord Kivu, le M23 qui occupe la ville de Goma poursuit la traque des présumés militaires congolais, Wazalendo et FDLR, dans les structures médicales et dans les quartiers. Après l'hôpital Il Africa, ces éléments du M23 ont mené une opération similaire la nuit dernière à l'hôpital Sebeka Ndosho de Goma. Au moins 112 personnes ont été emmenées par le M23 au cours de cette opération, renseignent plusieurs sources locales. Plus de détails avec vous, Martial Papimukeba.
D'après des témoignages donnés par des voisins de l'hôpital, les rebelles ont fait incursion au sein de l'hôpital CBC Andocho dans les quartiers qui est Chéro vers 3h du matin. Ces derniers ont emmené une bonne centaine de personnes, notamment des gardes malades, mais aussi des malades guéris, affirmé plusieurs sources. Toutes ces personnes sont considérées par les M23 comme des militaires et Wazalendo qui se seraient cachés dans les hôpitaux. Nos sources affirment également ce matin qu'une dizaine de civils qui avaient été pris dans les lots ont été relâchés après vérification et commencent à regagner l'hôpital d'après certaines sources. Jusqu'ici, personne ne sait dire là où ces personnes ont été conduites dans un cas de formation ou bien ont-elles été arrêtées. Ce sont des questions que se pose la population de Goma. Celle-ci exprime une angoisse grandissante au regard de ces opérations menées par les rebelles du M23 dans la ville de Goma. Nous n'avons pas encore réussi à joindre les responsables de l'hôpital CBC Andocho pour plus de détails.
À Bukavu, au sud Kivu, le pasteur de la 5e communauté des églises libres pentecôtistes en Afrique, Philadelphie, exhorte les responsables du M23 à cesser avec des arrestations et autres abus contre la population. Pasteur Eugène Bougiriri l'a déclaré hier dimanche au cours du culte dominical auquel a pris part le numéro 1 du mouvement M23, Bertrand Bissimois et ses proches. Pour cet homme de Dieu, la ville de Bukavu et ses habitants ont besoin de la paix. Martial Kizabiamungu.
Dans son message de plus de 10 minutes devant des centaines de chrétiens, le pasteur responsable de la 5e communauté des églises libres pentecôtistes en Afrique commence par dire à Bertin Bissimois que la ville de Bukavu a été remise aux mains de Dieu depuis 2023 pour dire non au bruit des armes. L'homme de Dieu, Eugène Bougiriri, rappelle au numéro 1 du M23 sous les applaudissements de chrétiens de Bukavu et couverte d'une grâce de Dieu, ce qui, selon lui, justifie l'entrée des rebelles dans cette ville sans enregistrer un bain de sang, mais pas parce que le FRDC qui y était n'était pas fort. Il implore la malédiction à tous ou ceux qui seront à la base des tueries de ces villes dans cette ville. Bougiriri renchérit, je cite, « Si vous êtes venus à Bukavu avec le sang des innocents dans vos mains, attention car ce sang vous suivra partout où vous irez. » Et d'ajouter, je cite, « Mon frère Bissimois, vous êtes mon petit frère, ta mère, fille, ma mère, faites passer les messages à la population que tous ceux dont les biens ont été volés par vos hommes, qu'ils se présentent chez vous pour une restitution. » Eugène Bougiriri demande l'implication de Bertin Bissimois pour la libération de plusieurs personnes arrêtées par les M23 il y a plusieurs jours, dont le sort n'est pas connu jusque-là.
Toujours à Bukavu, la ville s'est réveillée ce lundi avec des tirs d'armes à feu. Une incursion des Wazalendo Maïmaï a visé une position tenue par le 123 sur la colline de Karale, dans la commune de Kadutu. Les habitants sont restés terrés dans leurs maisons. Le calme est revenu quelques heures plus tard, mais les activités sont restées paralysées durant la journée à Bukavu. Le point avec vous, Stani Diomi.
L'incursion est intervenue à l'aube contre la position de M23 sur la colline qui surplombe la partie ouest de la ville de Bukavu, à Karalekan TV. Et deux balles ont crépité durant quelques heures, témoignent des habitants du quartier. Ensuite, le Wazalendo Maïmaï se sont repliés. Pour l'instant, personne n'est à mesure de fournir le bilan. La circulation a repris, mais les parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. Les marchés n'ont pas été achalandés comme d'habitude. Les véhicules privés étaient moins visibles sur la route. Le nouveau maire récemment désigné par la rébellion a fait une déclaration dans laquelle il a minimisé ce qui s'est passé ce matin à Bukavu. Il a demandé à la population de vaquer à ses occupations.
En Ituri, les FRDC ont délogé le groupe armé Zaïre des localités de Nyamamba, Djo et Gbi. Après des combats le week-end dans la plaine du lac Albert, à au moins 70 km au sud de Bounia. Selon des sources concordantes, plusieurs camps de pêche sont vidés de leurs habitants suite à la persistance de l'insécurité dans la zone. Les activités économiques sont également paralysées dans les grandes agglomérations, notamment au centre commercial de Tchoumia. Isaac Remoyope.
Des détonations d'armes sont attendues depuis samedi entre les miliciens des Zaïre et les FARDC vers les littorales du lac Albert dans les territoires des Djougou. Les miliciens ont résisté pendant 48 heures à l'assaut des FARDC qui ont reçu des renforts à provenance du secteur opérationnel à Bounia. Elles ont pilonné les positions des miliciens à Djo et Mbogi qui sont à débandade, affirment des sources de sécurité. D'autres assaillants de cette milice qui étaient concentrés à Nyamamba ont été délogés par l'armée. Le bilan de ces affrontements n'est pas encore connu. Cependant, des sources locales de déplore le déplacement d'environ 90% d'habitants au centre commercial de Tchomia. Les activités économiques, boutiques, marchés, commerce des poissons, importation des marchandises sont suspendues. Plusieurs camps de pêche, Mbougi, Djo, Bi, Café, Nyamamba, Sabé, sont vidés de leurs occupants. La plupart de ces personnes ont trouvé refuge en Ouganda et d'autres à Kasenyi, à 7 km de Tchomia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Le directeur général de la Régie des eaux annonce le rétablissement dans les prochaines heures de la desserte en eau potable dans la partie ouest de la ville de Kinshasa. Depuis déjà 4 jours, l'eau ne coule pas des robinets à la suite d'une grosse panne matérielle survenue au niveau du point de captage de l'usine des eaux zones. Pour le moment, l'usine a redémarré et l'équipe de la Régie des eaux travaille d'arrache-pied pour ravitailler à nouveau les lignes d'approvisionnement en eau potable. C'est ce qu'affirme en tout cas le directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba. Il est au micro de Blaise Shindani Kambala.
En fait, effectivement, on a connu une panne au captage de l'usine d'ozone depuis samedi la nuit. Nous avions observé une fuite sur une conduite d'aspiration. Cette fuite laissait jaillir beaucoup d'eau. Nous avons arrêté l'usine pour réparer la fuite et on pensait que ça allait être un problème résolu très vite. Malheureusement, aussitôt qu'on a fini de réparer la fuite, on a lancé les pompes. Les pompes prenaient beaucoup d'air parce que la conduite est devenue vide. Il n'y avait pas de l'eau dans la conduite. Les pompes prenaient beaucoup d'air. Donc l'air entrait de quelque part. Il fallait faire des investissements. Toute la journée de dimanche, la nuit de dimanche à lundi pour trouver quelle était la cause de cette entrée d'air dans les conduites. C'est dans la nuit de dimanche à lundi qu'on a finalement identifié qu'il y avait 3 vannes qui étaient blessées par des débris solides que l'on a aspirés dans le fleuve. On est revenu ce matin, on a enlevé la vanne, on a mis 2 plateaux pleins et donc le problème est résolu. Nous sommes en train de démarrer l'usine. D'ici 30 minutes à 1h, 2h, tout le monde aura de l'eau chez lui à la maison.
En plus bref, procès Bukangalonzo. L'audience prévue ce lundi 3 mars devant la Cour constitutionnelle a été renvoyée au 14 avril prochain suite à l'absence des prévenus. Selon les avocats des prévenus, à savoir l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Déogracias Mutombo, et le Sud-Africain Christo Globert, patron de la firme Africom, les invitations de justice n'ont pas pu atteindre leurs clients. Rappelons que cette affaire a connu plusieurs rebondissements. D'abord, après l'arrêt du 15 novembre 2021, par lequel la Cour constitutionnelle se déclare alors incompétente pour juger un ancien Premier ministre pour dissimulation des fonds alloués à la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Puis c'est le tour de la Cour de cassation qui s'en saisit avant de se déclarer aussi incompétente. En juillet 2023, le procureur général près la Cour constitutionnelle rouvre à nouveau le dossier et lance un nouveau mandat, mais le procès est renvoyé à plus tard à cause des élections.
Actualité internationale.
Les chefs de diplomatie arabe ont entamé ce lundi au Caire en Égypte une réunion pour préparer le sommet extraordinaire de leurs dirigeants consacré à la reconstruction des Gaza avec un projet alternatif à celui du président américain Donald Trump. M. Trump a proposé début février une prise de contrôle américaine de la bande des Gaza après la fin de combat et un déplacement de ses quelque 2,4 millions d'habitants afin de reconstruire le petit territoire palestinien et d'en faire la riviera du Moyen-Orient, selon ses propos. Contrairement au plan américain, le plan arabo-égyptien ne voudrait pas déplacer la population palestinienne avant de reconstruire Gaza. Ce plan devrait être adopté par les dirigeants arabes lors de leur sommet le mardi dans la capitale égyptienne. Notez qu'une trêve est en vigueur depuis le 19 janvier dernier dans la bande de Gaza, dévastée par une offensive d'envergure israélienne menée en représailles à une attaque du mouvement islamiste Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
L'invité.
Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général des Nations Unies, adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, est l'invité de ce journal. Lors de son séjour à Beni au Nord Kivu, donc chef-lieu de la province, il a rencontré les autorités locales, notamment le gouverneur de la province, pour réaffirmer le soutien de la MONUSCO dans le domaine de la sécurité et de la protection des civils. Jean-Pierre Lacroix revient sur ces échanges dans cet entretien avec Guylaine Kassassia.
Jean-Pierre Lacroix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en visite en RDC à un moment critique. Vous avez rencontré les autorités congolaises alors que la situation sécuritaire se détériore avec l'avancée du M23 au nord Kivu et au sud Kivu. Quels ont été les principaux points abordés avec vos interlocuteurs lors de vos échanges?
Précisément, c'est l'importance fondamentale de mettre en œuvre la résolution 2773. C'est une résolution qui a été adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité. Ça veut dire qu'il y a une forte convergence de tous les membres de la communauté internationale pour soutenir les principes d'un règlement de la situation à l'est du Congo. Maintenant, que faire pour que ça se matérialise? Alors, d'une part, les efforts diplomatiques, c'est-à-dire pousser de manière vigoureuse en utilisant tous les messages et tous ceux qui peuvent le faire pour que cessent d'abord les hostilités. Ensuite, que la MONUSCO se prépare, et elle le fait, pour à la fois se déployer pour mettre en œuvre la supervision du respect du cessez-le-feu lorsque le cessez-le-feu sera, nous l'espérons, mis en œuvre. D'autre part, continuer à faire le maximum pour protéger les civils et assurer l'ensemble du mandat. Certes, dans la zone occupée par le M23, il y a des restrictions, mais nous continuons à faire le travail de protection, notamment des personnes qui sont dans les bases de la MONUSCO. Et puis, pour le reste, en Ituri, dans une grande partie du Nord Kivu non occupée, un travail actif et proactif qui va être renforcé pour la protection civile et le soutien aux efforts des autorités du peuple congolais.
En évoquant la résolution 2773 exigeant les retraits du M23 des localités occupées et la fin du soutien du Rwanda à la rébellion, quel mécanisme l'ONU met-elle en place pour assurer son application effective?
Alors, c'est sûr, le retrait du M23, le retrait des forces du Rwanda sont partie des messages importants de la résolution 2773. Je rappelle que le retrait des forces armées rwandaises fait partie des engagements pris dans le cadre du processus de Rwanda. Et maintenant, tous les efforts diplomatiques, tous les signaux doivent être envoyés à ces protagonistes pour que l'offensive cesse et qu'on puisse passer à une phase de mise en œuvre d'un règlement pacifique.
Jean-Pierre Lacroix, plusieurs pays ont imposé des sanctions au Rwanda et à certaines personnalités impliquées dans les conflits. Quelle est la position des Nations Unies sur ces mesures?
Ces mesures, elles relèvent de la décision des États membres. Et elles ne relèvent pas des Nations Unies et encore moins du secrétariat des Nations Unies. Ce que nous disons, nous, c'est que tous les efforts doivent être faits pour mettre fin à cette offensive. Tous les signaux qui peuvent avoir un impact doivent être envoyés et que de notre côté, nous nous préparons. D'abord, nous contribuons aux efforts diplomatiques à tous les niveaux, y compris celui du secrétaire général qui s'est beaucoup engagé sur cette crise et qui continuera à le faire, et nous-mêmes, bien sûr. Et puis, comme je l'ai dit, aussi nous préparer à titre opérationnel pour que la MONUSCO soit prête à réagir très vite pour se déployer et assurer la supervision du respect du cessez-le-feu.
Quel rôle la MONUSCO peut-elle jouer pour favoriser la désescalade des tensions entre les parties en conflit?
Bon, d'abord, elle le fait au quotidien puisque, je le répète, qu'une bonne partie de la MONUSCO continue à mettre en œuvre la totalité du mandat dans une partie importante de l'est de la RDC, qu'il s'agisse de l'Ituri, où il y a encore des centaines de milliers de civils qui sont protégés tous les jours par la MONUSCO, dans un contexte qui est difficile et qui a vu récemment une escalade des tensions. Dans cette partie du Nord Kivu, avec à la fois une montée du M23 et aussi les activités des ADF qui restent très 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 graves en matière de conséquences humanitaires et de pertes en vies humaines. Et dans tous ces domaines, l'activité de la MONUSCO reste, et l'engagement de la MONUSCO reste total. Et avec le redéploiement que j'évoquais tout à l'heure du QG de la force à Beni, cette action en matière de protection des civils, en matière de défense de la population face à toutes ces menaces va être encore renforcée.
Comment envisagez-vous le retour à la paix dans la partie est de la RDC ainsi que la stabilité de la sous-région?
Eh bien, je l'ai dit, il y a une feuille de route qui est très claire, qui est la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Elle contient tous les éléments pour faire aboutir à un règlement pacifique. Maintenant, il s'agit, comme je l'ai dit, de tout faire pour qu'elle soit mise en œuvre. Et encore une fois, la détermination des Nations Unies dans la totalité de ses dimensions opérationnelles, diplomatiques, humanitaires et totales.
Jean-Pierre Lacroix, nous vous remercions.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzi Tukabambi. La mise en onde est signée Dieudonné Nyangasa, un journal coordonné et supervisé par Pile Kipela Mondo. Merci à tous de nous avoir suivis.